Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur le site Bible Espoir et nous allons entreprendre une réflexion, une méditation très originale qui nous ramène dans le livre des origines et je parle du livre de la Genèse au chapitre 3 et au verset 4. Nous allons lire 2-3 versets et le titre que je donnerai en effet à cette réflexion aujourd'hui, ce serait tout simplement l'énigme du monde. L'énigme du monde, appelée également par l'apôtre Paul dans une de ses lettres, tout simplement le mystère de l'iniquité. Beaucoup de gens se posent des questions sur l'origine du mal, du péché, de la mort, de toutes ces choses qui sont terribles et qui frappent et qui continuent à frapper notre monde. Et nous avons en effet une réponse dans la Bible. C'est la réponse véritablement de Dieu au questionnement des hommes. Alors, je vous ai annoncé donc le chapitre 3 dans notre texte de Genèse et au verset 4. « Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Disons tout de suite qu'il y a ce personnage que le livre de la Genèse appelle le serpent. Et quand le serpent dit à la femme ce que nous avons lu, « Vous ne mourrez pas, et vous serez comme des dieux », il y avait la proclamation d'une vie éternelle, et vous serez comme des dieux. Ça ne veut pas dire Dieu, tout simplement. Il s'agit, et nous l'ajoutons, il s'agit de la plus grande tromperie qui n'ait jamais été imaginée. C'est un pur mensonge et une illusion. À l'heure où l'on parle tant de nouvel ordre mondial, c'est de la politique, c'est en effet, ça touche toutes les dimensions de la vie des hommes, les sociétés, les siècles, enfin toutes sortes de choses, en effet, qui touchent à l'universel. Nouvel ordre mondial. Lorsque l'on parle aujourd'hui tant d'églises, en effet, unifiées, de nouvel âge, il n'est pas superflu de dénoncer fermement et bibliquement ce vieux mensonge qui tend à faire croire à une majeure partie de l'humanité, même touchant les églises, touchant le christianisme et bien d'autres religions, que l'homme peut atteindre l'objectif ultime. Et cet objectif ultime proposé à Ève, ensuite à Adam, c'est être comme Dieu, c'est-à-dire tout au moins être un petit dieu. Le monde y a cru et y croit plus que jamais, mettant tout en place pour se réaliser et atteindre cet impossible but. C'est une illusion. Il va sans dire que ces moyens d'action sont aussi variés que dangereusement subtils par le fait que l'humanité, à la recherche d'elle-même, se laisse abuser par le menteur du commencement. Tout a commencé par le mensonge après que Dieu ait donné la connaissance de la vérité à travers le fruit de l'arbre de la vie. Tout a commencé à travers finalement ce mensonge qui est aussi là porteur et vecteur de doute dans l'esprit de l'homme créé. Dans la panoplie des hameçons, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette panoplie des hameçons autour de la promesse mensongère, on y présente pêle-mêle une kyrielle de techniques stimulant la foi. Mais s'agit-il de la vraie foi ? La prière miracle qui obtient réponse à tout. des méthodes psychologiques du développement de la personnalité, qui inclut également le magique, le mystique, voire des procédés d'inspiration occulte que l'on rebaptise pour mieux endormir les consciences et les esprits, la réflexion, avec une terminologie chrétienne ou scientifique même, on recourt, même ouvertement, eh bien, à cet occultisme qui s'affiche comme une science mystique, je l'ai dit il y a un instant, ou mentale. L'appât sur l'hameçon, eh bien, c'est tous les besoins humains immenses d'être, du bien-être, de se réaliser, de vivre bien dans son corps et bien dans sa tête, de dominer la maladie et toutes les autres aspirations humaines. Alors on l'appelle et on le nomme sous divers noms. Ce sont les lois de la réussite, pseudo-réussite, hein, techniques de motivation, pouvoir psychique de guérison par exemple, évangile de la prospérité, c'est vraiment notre temps, estime de soi, utilisation de la pensée positive qui pénètre de plus en plus dans certains écrits, certaines formes d'expression, mais quelquefois, eh bien, qui arrivent même à, eh bien, là, impacter la prédication de la vérité, la prédication de l'évangile. L'homme se sentant de plus en plus à l'étroit en lui-même, mais aussi dans un monde qui est pollué, qui est dénaturé, qui est dévoyé, à cause de son péché, prétend répondre et solutionner tous les problèmes dont le monde est confronté. Autrefois, l'homme se tournait vers le Dieu créateur, dans cette conscience innée que, eh bien, Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Aujourd'hui, encouragé par ses succès, par les succès de l'homme, j'entends toujours, et ses découvertes, alors il se tourne vers lui-même en pensant qu'il est Dieu, en pensant que tout lui est possible, en pensant qu'il découvre, eh bien là, tous les mystères, qu'il va mettre à jour la connaissance de tout ce qui est encore voilé et caché. Donc, il se tourne vers lui-même, imbu de lui-même, et il joue, sans le savoir, en quelque sorte, à être Dieu. Et à être adoré comme Dieu, à être vu comme Dieu. Nulle part dans la Bible, nous trouvons que Dieu ait dit à l'homme qu'il deviendrait ou qu'il soit Dieu, dès maintenant, simple créature par surcroît pécheresse. C'est la chose qu'il refuse de savoir, eh bien que l'homme de reconnaître, eh bien qu'il est pécheur et qu'il est perdu. Tout le mal existant sur la terre vient de cette arrogante prétention à vouloir remplacer Dieu. Et cela, eh bien, s'explique par le vecteur principal, par le germe mortel que l'on appelle l'orgueil. Et l'homme veut exorciser son humiliante condition, non pas en reconnaissant sa condition de pécheur et d'être perdu, mais en essayant de l'exorciser par toutes sortes de choses, comme on vient de le signaler. Nous lisons également dans le livre de la Genèse les conséquences de tout cela et de la chute de l'homme, en quelque sorte. Il nous est dit que, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit au moment où ils vont être reconnus comme perdus, comme pécheurs. Et l'Éternel dit à l'homme, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Constatation divine. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Poussière, tu es poussière et tu retourneras la poussière. C'est ainsi que Dieu chassa Adam et nous savons que eh bien, le chemin de l'arbre de vie a été barré par des chérubins. C'est le texte biblique qui nous le dit. Alors, quand nous lisons ce texte que je viens de signaler, nous constatons qu'avec le péché, l'homme a acquis la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance du bien et du mal, eh bien, parce qu'il veut s'approcher de l'arbre de vie, eh bien, d'en manger et de vivre éternellement, c'est alors que Dieu le renvoie du jardin d'Éden. Il le chasse, parce qu'il a préféré finalement l'indépendance, se mettre dans l'indépendance de son Créateur, dans la désobéissance, dans toutes sortes de choses qui sont contraires, alors il est chassé du jardin d'Éden, qui est quand même le paradis terrestre, et on en connaît quelques bénéfices qui sont levés dans les premières pages de la Bible. Le Créateur ne voulait pas que sa créature, et c'est le pourquoi de ce qu'il a été chassé, de ce qu'il y a une rupture entre le Créateur et la créature. Donc le Créateur ne voulait pas que sa créature vive éternellement. Et pourquoi ? Non pas parce qu'il y avait une punition, une sanction, il y avait certainement cela, mais il ne voulait pas qu'il vive dans cet état de déchéance, de déchu de divinité tronquée et usurpée. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Nous voyons que les hommes viennent, que les hommes passent, que les hommes meurent, et il y a naturellement une autre dimension qui est cachée aux hommes, c'est la mort et l'après-mort naturellement. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a au cœur même de ce message évangélique, eh bien une promesse de salut, dont je ne parle pas parce que ça ne rentre pas dans le cadre de notre réflexion, mais c'est surtout les origines finalement de cette énigme du monde, de cette chute de l'homme. Donc Dieu ne voulait pas que cet homme vive éternellement dans la déchéance. La réalité, naturellement, est celle-ci, parce que Dieu lui avait dit, l'avait prévenu, l'avait mis en garde, le jour où tu mangeras du fruit de, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La sanction est donnée. Et qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire pour Adam et Ève? Mourir. Ils ne connaissaient que la vie. Ils ne connaissaient que la plénitude de la vie. Ils ne connaissaient que le bonheur. Ils ne connaissaient que le bien-être. Ils ne connaissaient que la dimension, de la grâce de Dieu. Donc, tu mourras. On peut dire que la désobéissance a ruiné l'homme marchant à la suite d'un faux Dieu, écoutant la voix d'un faux Dieu, écoutant la voix du mensonge qui est là personnalisé par un serpent, mais ce faux Dieu, c'est tout simplement Satan, le diable, l'ennemi de l'homme et l'ennemi de Dieu. En s'emparant de cette connaissance défendue, il l'a fait en quelque sorte, parce que l'homme a cru à ce mensonge du diable, il l'a fait indépendant de son Créateur. Il y a eu une rupture, il y a eu une fracture, où là, comme un des apôtres le dira, que l'homme est perdu et il est privé de la grâce, il est privé de la gloire de Dieu. Alors cet homme a voulu décider lui-même de ce qui était bon ou mauvais, sans recourir à Dieu. Et il s'est établi ses propres critères de bien et de mal, s'est débarrassé des exigences absolues de la morale, si on peut employer ce nom, l'éthique de la morale, pour vivre selon sa volonté propre. Ce n'est plus la volonté de Dieu qui prédominait, mais sa volonté. Je fais ce que je veux, je fais comme je le pense, je fais comme je le décide. À vrai dire, aujourd'hui comme hier, l'homme ne sait plus ce qui est bien, et ce qui ne l'est pas, et la confusion règne. Voilà le pouvoir du mensonge. Instiller le doute dans le cœur de l'homme, instiller la confusion et ne sachant plus là où l'on en est, on est perdu en quelque sorte. Afin d'éviter l'effondrement complet de l'humanité, il a imprimé des lois morales dans la conscience des hommes. Et c'est ainsi, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ainsi que dans la première partie de la Bible que l'on appelle l'Ancien Testament, Dieu a édicté des lois. Ceci, cela, les 10 commandements par exemple, et bien d'autres choses comme ça. Donc il a édicté des lois pour stimuler la conscience morale de l'homme, faire ou ne pas faire, choisir surtout. Et pour la première fois en Éden, l'homme faisait l'expérience, qui dit loi, de la culpabilité. Tu agis bien, tu es en paix, tu agis mal, tu es culpabilisé. Cette connaissance empoisonnée du bien et du mal a été une malédiction. On ne peut pas dire le contraire, on en a encore les effets encore aujourd'hui. C'est-à-dire un fardeau accablant, qu'ayant l'illusion d'être comme des dieux ou comme Dieu. Et je répète, être Dieu c'est une chose, être comme Dieu c'en est une autre. Si c'est comme, c'est semblable, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Nous ne pouvons toujours pas faire le bien que nous voudrions, ni éviter le mal que nous ne voulons pas faire, et que nous faisons prétendument, prétendue liberté, qui s'est changée en esclavage. C'est véritablement ce que nous voyons dans le tiraillement de l'âme humaine, aujourd'hui, comme hier, à travers tous les temps, qu'il y a là cette dualité permanente entre le bien et le mal, avec cette confusion. Et nous voyons que l'homme, lorsqu'il plonge dans le mal, il s'enfonce dans le mal, il ressent dans les premiers effets un bien-être, une satisfaction, comme un contentement. Mais après, eh bien, il se change véritablement en tourment. Et c'est ça, justement, eh bien, là, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la vraie paix. Voilà pour l'énigme du monde, et nous voyons que l'homme a été trompé. Il a été dupé, et c'est ainsi que Dieu va ériger, va mettre en place un plan de salut. Dieu va lui faire grâce, dans la mesure où l'homme veut bien croire. Eh bien là, ces promesses de grâce, ces promesses de pardon, et que tout peut repartir, et nous en arrivons naturellement au Nouveau Testament, mais à travers eh bien, la venue de Jésus, qui va remplacer la loi directive, la loi accusatrice, pour amener eh bien, une autre dimension, c'est la grâce par la foi, avec un homme nouveau, que l'on appelle eh bien, naître de nouveau, la nouvelle naissance. Je poursuis. Dans un autre passage de la Bible, il est aussi question de l'homme qui voulait se croire Dieu, jugement prononcé à l'encontre des chefs d'Israël en leur temps, parce qu'ils agissaient comme de petits dieux. Et nous voyons que eh bien, la parole, en effet, est très claire. Dans le psaume 82 et verset 6, il est dit ceci: « Vous êtes tous des fils du Très-Haut », ça ne veut pas dire des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Et c'est ça le drame. Vous n'êtes pas Dieu, parce que Dieu est immortel. Pas Dieu, parce que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Mais sa créature, oui, a un commencement et une fin. Toutefois, une chose devait rappeler à ces chefs d'Israël, parce que cette accusation eh bien, est portée contre eux, cette réalité toute empreinte de la terre est pleine de vérité, quand bien même ils étaient rois, ils avaient le pouvoir, ils avaient peut-être eh bien là l'illusion du bonheur sur terre humain, Dieu dit « mais vous mourrez comme des hommes ». Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre élévation en dignité, peu importe, vous restez des créatures et des hommes. Donc vous n'êtes pas Dieu puisque vous mourrez. Plus loin dans l'évangile, c'est Jésus lui-même qui prononce un sévère réquisitoire contre les hommes qui s'imaginent jouer à Dieu. Voilà, illusion de pouvoir se croire, et ça c'est une forme épouvantable d'orgueil, de faire croire à nos semblables, de faire croire ou se croire nous-mêmes, et bien que nous sommes Dieu. Alors, naturellement, et bien, il y a toutes sortes de déclinaisons pour jouer à Dieu. La toute-puissance, le plein pouvoir, d'une manière ou d'une autre, mais tout est limité et tout est véritablement caduque. Jésus utilise la citation du psaume 82 que nous avons lu, « Vous mourrez comme des dieux ». Et puis, nous voyons également que les Juifs refusaient obstinément de reconnaître que Jésus était vraiment Dieu, quelque part. Que, eh bien, lui, le Messie, leur Messie, eh bien, quand le Messie est arrivé, dans son humilité, comme un simple homme, semblable à tous les hommes, ils ont dit « Mais c'est pas possible, tu te fais Dieu ». Donc, c'est pas possible. Et c'est ainsi qu'ils ont déclenché, eh bien là, ce crime épouvantable de la crucifixion. Ils se disaient, eh bien, c'est pas possible qu'il soit vraiment Dieu. Jésus n'a jamais joué à Dieu, puisqu'il l'était réellement. Voilà, c'est ça la question. Et les Juifs ne pouvaient pas s'imaginer un but de leur orgueil, un but de leur aveuglement, de leur méchanceté, de leur haine. Eh bien, ils ne pouvaient pas finalement s'imaginer que celui qui était venu de la part de Dieu, pour leur parler du royaume de Dieu, des royaumes des cieux, eh bien c'était Dieu lui-même, sous une forme humaine, incarnée, préexistant naturellement, parce que l'Ancien Testament en parle, et nous voyons que par exemple dans le livre des Hébreux au chapitre 1er, nous voyons que le Fils que Dieu a établi héritier de toute chose, supériorité universelle, par lequel il a aussi créé le monde, créateur Dieu, en Jésus-Christ, eh bien là, a été aussi le créateur du monde, étant le reflet et la gloire et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que la visibilité de Dieu qui est esprit, donc il ne se voit pas, a été manifestée à travers l'incarnation de Jésus qui a revêtu un corps d'homme comme les autres. Mais la grande différence par rapport aux hommes mortels, c'est que Jésus a déployé, a découvert, sans abdiquer à sa divinité, eh bien, toutes les qualités de la perfection, toutes les qualités de la vérité, toutes les qualités de l'amour. Il nous est dit qu'il est le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne. Le paradoxe, c'est cette suspicion sur la divinité de Jésus, alors que tout prouvait la réalité qui était Dieu. Et les Juifs diront, nous voulons te lapider, nous te lapidons pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus disait tout simplement la vérité. Et nous voyons ce rapport extraordinaire à travers un des versets les plus connus du Nouveau Testament, quand Jésus disait « Je suis la vérité, croyez-moi. Je suis la vie, acceptez-moi. Et je suis tout simplement, eh bien là, le chemin. » Eh bien, suivez-moi, tout simplement, car nul ne peut venir au Père. Il n'est pas dit qu'il vient à Dieu, nul ne peut venir à Dieu. Mais non, nul ne peut venir à mon Père céleste, votre Père céleste et créateur, eh bien, que par moi. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans le même évangile de Jean, chapitre 8, Jésus renverra à ses adversaires une autre vérité non moins réelle, qui les a rendus furieux. Et j'aimerais simplement, et je terminerai sur ce passage, chapitre 8, l'évangile de Jean, verset 44, il est dit cette parole évidente quand nous avons cela sous les yeux. Alors, Jésus dira à ses détracteurs, à ses adversaires, quand il est dit ceci, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché, et c'est le Fils qui va donc vous affranchir et vous serez réellement libre. Vous serez véritablement des hommes libérés. Vous ne serez pas des dieux, mais vous serez des hommes affranchis à cause de ma parole que vous avez crue. Ce que les hommes ont rejeté, ce que les hommes ont renié au premier jour, eh bien là, de la création, Jésus leur dira sous une autre forme, il leur dira tout simplement, « Si donc, moi, le Fils de Dieu, le Messie, votre Messie, vous les Juifs, vous serez réellement libres, alors que Adam, finalement, est tombé dans l'esclavage. » Et la suite, eh bien, est évidente. « Vous avez pour père le diable. Vous prétendez avoir Dieu pour père, mais vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, dit Jésus, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà la condition universelle des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui est catastrophique. Je terminerai par un dernier passage que je lirai parce qu'il est intéressant, puisqu'il pourra être l'occasion d'un prolongement dans notre méditation, là, sur l'énigme du monde, et dans le chapitre premier, je crois, dans les Romains. Il est dit cette parole, je vais simplement faire que de la lire et ça sera peut-être aussi un complément de ce que nous avons dit aujourd'hui. Il nous est dit simplement, les hommes ayant connu Dieu dans les temps finalement, eh bien pré-adamiques, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils se déshonorent eux-mêmes, leur propre cœur, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Alors voilà pour cette réflexion, brève réflexion, c'est vrai, mais qui est bien temps à nous rappeler, comme je l'ai souligné tout à l'heure, eh bien ce questionnement universel, et à travers tous les temps, à travers toutes les époques, à travers toutes les périodes, tous les siècles, de cette question de l'origine du mal, et je le rappelle, que Paul appelle le mystère de l'iniquité. Alors nous avons levé qu'un petit coin du voile, parce que toute la Bible naturellement fait référence à cette corruption de l'homme, de la créature, mais il y a également eh bien là une espérance qui se dégage de tout cela. Dieu n'a pas laissé l'homme abandonné à lui-même, mais il est nécessaire que l'homme entende, que l'homme croie et qu'il amorce un retour vers son Dieu, un retour vers celui qui est capable de le pardonner, qui est capable de le sauver, qui est capable de l'affranchir, qui est capable de lui donner une nouvelle vie et de retourner en quelque sorte, non pas au paradis terrestre, non pas dans les conditions du jardin d'Éden, mais de se préparer, en effet, à travers ce retour que l'on appelle une repentance, que l'on appelle une renaissance, eh bien, se préparer non pas à retourner, je viens de le dire et je le souligne encore, vers le paradis terrestre, mais vers le paradis céleste, c'est-à-dire cette dimension céleste d'immortalité, de sainteté, eh bien, qui véritablement à qui attend chacun et chacune qui croit, parce que tout repose, eh bien, sur la foi. L'homme a douté au premier jour de la création, et maintenant Dieu lui demande de ne plus douter, mais de croire, parce que nous savons que, eh bien, la foi rend possible toute chose, et surtout qu'elle rend possible avant tout, eh bien, le salut. Et nous avons, en effet, de telles belles paroles dans la Bible, telles que celle-ci, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui vivent dans la foi en Jésus-Christ. Et nous voyons que le péché premier, le péché primaire dans l'histoire humaine, eh bien, était véritablement, eh bien, là, couvert par ce que Jésus a accompli. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous fortifie pour nous tourner vers Dieu, lui demander pardon et croire qu'il y a naturellement, eh bien, un salut, un secours. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup.